5. Radar avait pris de l'avance et voilà qu'elle reniflait quelque chose sur le sol du passage. Un morceau de soie verte. Je le ramassais, l'examinais et le glissais dans l'étui du revolver avec le gobelet d'allumettes sans m'y attarder. Le passage, large et haut de plafond, ressemblait davantage à un tunnel. On atteignit un endroit où il se séparait en trois, chaque nouvelle galerie étant éclairée par cette même lumière verte palpitante. Au-dessus de chaque arche, une clé de voûte gravée représentait cette chose que j'avais vue pour la dernière fois brisée en deux sur le sol, dans l'aile des appartements privés, une sorte de calamar dont le nid de tentacules dissimulait le visage hideux. Les monarques étaient une bénédiction, cette horreur un blasphème. « Encore un conte de fées, songeai-je, destiné aux adultes celui-ci. Pas de grand méchant loup, pas de géant, pas de Rumpelstiltskin. C'est une version de Xulu au-dessus de ses arches. Est-ce la représentation de Gog Magog, grand prêtre des anciens dieux qui alimente ses rêves maléfiques dans les ruines de Rillié? À qui Eldon souhaite-t-il demander une autre faveur ?» Léa s'arrêta, fit un pas vers le passage de gauche, s'arrêta de nouveau, fit un pas vers le passage du centre et hésita de nouveau, en regardant droit devant elle. Quant à moi, je regardais le sol où des traces de pas dans la poussière s'enfonçaient dans la galerie de droite. Flight Killer et ses disciples avaient pris cette direction, mais j'attendis de voir si Léa s'en souvenait. Oui, elle pénétra dans le passage de droite. On l'a suivie. L'odeur, la puanteur, les effluves méphitiques devint plus puissante, le bourdonnement plus fort, plus pénétrant aussi. Des champignons mous et difformes, blancs comme les doigts d'un cadavre, poussaient dans les interstices entre les pierres des murs. Ils pivotèrent pour nous regarder passer. Tout d'abord, je crus que mon imagination me jouait des tours, mais non.
Oh, « c'est effroyable !» commenta Iris d'une petite voix désespérée. « Je croyais que Maline était un endroit affreux, et le terrain où on était obligé de se battre, mais ce n'était rien comparé à ça !»
Je ne trouvais rien d'autre à dire. Elle avait raison. On marcha encore longtemps sans cesser de descendre. L'odeur empirait, le bourdonnement s'amplifiait. Il n'était plus seulement à l'intérieur des murs. Je le sentais au centre de mon cerveau, où il ressemblait non pas à un bruit, mais à une lumière noire. Je n'avais aucune idée de l'endroit où on se trouvait par rapport au monde extérieur, mais on était au-delà de l'enceinte du palais, assurément, bien au-delà. Les empreintes de pas s'effacèrent, puis disparurent. Aucune poussière ne s'était déposée à cette profondeur. Il n'y avait plus de toile d'araignée. Elle-même avait déserté ce lieu maudit. Les murs se transformaient. Par endroits, les pierres avaient été remplacées par de grands blocs de verre, d'un vert sombre, dans les profondeurs desquelles d'épaisses vrilles noires tourbillonnaient et pullulaient. L'une d'elles fonça sur nous, et son extrémité sans tête se déploya pour devenir une bouche. Iris laissa échapper un petit cri. Radar marchait si près de moi maintenant que ma jambe frôlait son flanc à chaque pas. Enfin, on émergea dans une vaste salle voûtée tout en verre, vert sombre. Les filaments noirs, omniprésents dans les murs, jaillissaient et se rétractaient, émanant d'étranges formes sculptées qui changeaient d'aspect quand vous les regardiez. Elles s'incurvaient, s'entortillaient, dessinaient des figures, des visages. « Ne regarde pas ces machins !» dis-je à Iris. Je pensais que Léa le savait. Si elle s'était rappelé comment venir jusqu'ici, elle se souvenait certainement de ces étranges formes changeantes. « Ils vont t'hypnotiser !» Arrêtée au centre de cette horrible salle, Léa regardait autour d'elle, hébétée. La nef était bordée de différents passages qui tous vibraient d'une lumière verte. Il y en avait au moins une douzaine.
Oh, « je crois que j'y arriverai pas !»
dit Iris dans un murmure tremblotant.
« Je suis désolée, Charlie. Je crois que j'y arriverai pas. »
Personne ne t'y oblige. Ma voix me paraissait monotone, Iriel, à cause du bourdonnement sans doute. On aurait dit la voix du Charlie Reed toujours prêt à suivre les sales idées inventées par Birdman et à y ajouter les siennes. Fais demi-tour si tu peux retrouver ton chemin. Sinon, reste ici et attends-nous. Léa effectua un tour complet sur elle-même, lentement, en scrutant chaque passage. Elle me regarda, leva les mains et secoua la tête. « Je ne sais pas. Vous n'êtes jamais allé plus loin, n'est-ce pas ?» Elden a continué seul à partir d'ici. « Oui. Mais il a fini par revenir. Oui. » J'imaginais Léa, enfant, en train d'attendre dans cette chambre verte aux sculptures inquiétantes, avec ses machins noirs qui dansaient dans les murs. Une fillette qui tient bon, inébranlable, en dépit de ce bourdonnement insidieux. Seule. Vous l'avez accompagnée en d'autres occasions ?
Oui.
Elle leva un doigt, ce que je ne compris pas. Et après ça, il est venu sans vous. Une longue pause.
Oui.
Et un jour, il n'est pas revenu.
Oui.
Mais vous n'êtes pas parti à sa recherche, n'est-ce pas ? Vous êtes venu jusqu'ici peut-être, mais pas plus loin. Vous n'avez pas osé. Elle se couvrit le visage. Réponse suffisante.
Je m'en vais, lâcha Iris. Désolée, Charlie, mais je ne peux pas.
Elle s'enfuit. Radar l'accompagna jusqu'à l'entrée par où on était arrivé, et si elle était partie avec Iris, je ne l'aurais pas rappelé. Le bourdonnement envahissait mes os maintenant. J'avais le pressentiment intense que la princesse Léa et moi, on ne reverrait jamais le monde extérieur. Radar revint auprès de moi. Je m'agenouillais pour passer mon bras autour d'elle et essayais de puiser un peu de réconfort. Vous pensiez que votre frère était mort ?
Oui.
Elle referma ses mains autour de sa gorge et quelques paroles gutturales émergèrent devant elle.
Est mort.
La personne que j'étais devenue et continuait à devenir était plus âgée, plus sage que le lycéen qui avait émergé dans ce champ de coquelicots. Ce nouveau Charlie, le prince Charlie, comprenait que Léa était obligée de croire à cette version. Autrement, le sentiment de culpabilité dû au fait qu'elle n'avait pas essayé de sauver son frère aurait été trop lourd à porter. Et pourtant, je devinais qu'elle n'était pas dupe. 6. Le sol en verre vert lustré semblait s'enfoncer dans des profondeurs infinies. Les choses noires grouillaient sous nos pieds et le doute n'était pas permis. Elles étaient affamées. Aucune poussière ici, je l'ai dit, et donc aucune trace de pas. S'ils en avaient laissé, un membre de la coterie de Flight Killer les avait effacés au cas où quelqu'un, nous par exemple, aurait tenté de les suivre. Léa n'ayant conservé aucun souvenir, impossible de déterminer lequel de ces 12 passages ils avaient emprunté. Ou peut-être que si, je revis la femme au grain de beauté à côté de la bouche en train de brailler
« À genoux, ancien sang ! À genoux, ancien sang !»
Elle s'appelait Petra, et elle portait une robe en soie verte ce jour-là. Je repris le morceau d'étoffe que j'avais récupéré et le tendit à Radar, qui le renifla sans beaucoup d'intérêt. Le bourdonnement et les formes noires à l'intérieur des blocs de verre l'affectaient, elle aussi. Mais je n'avais qu'elle. Nous n'avions qu'elle.
Lequel ?
Demandai-je en montrant les tunnels. Elle ne bougea pas, se contentant de me regarder, et je compris que l'effroyable atmosphère qui régnait en ce lieu m'avait rendu idiot. Il y avait des ordres que Radar comprenait. Ma question n'en était pas un. J'approchai le bout du tissu de sa truffe, encore une fois.
« Cherche, Radar ! Cherche !»
Cette fois, elle plaqua son museau au sol. Une des formes noires sembla se jeter sur elle, et Radar eut un mouvement de recul, mais elle colla sa truffe de nouveau sur la surface de verre. Ma brave chienne, si courageuse, et se dirigea vers un des tunnels, revint sur ses pas pour marcher vers celui situé juste à droite. Elle se tourna vers moi et aboya. Léa n'hésita pas. Elle se précipita à l'intérieur du tunnel. Je la suivis. La pente du sol en verre s'accentua. Si elle avait été un peu plus prononcée, je crois qu'on aurait perdu l'équilibre. Léa nous avait distancés. Elle était véloce. Moi, j'étais le balourd qui pouvait jouer uniquement au poste de première base. « Léa, attendez !» Elle ne m'écouta pas. Je courais aussi vite que me le permettait la pente. Radar, plus proche du sol et doté de quatre pattes, s'en sortait mieux que moi. Le bourdonnement faiblit, comme si quelque part une main avait baissé le volume d'un ampli géant. Quel soulagement! La lumière verte qui émanait des murs s'atténua elle aussi, remplacée par une lumière plus tamisée, un peu plus vive à mesure qu'on approchait de la sortie du tunnel. Ce que je découvris alors, même après tout ce que j'avais vécu ici, était tout bonnement incroyable, au sens littéral du terme. L'esprit se révoltait contre ce que montraient les yeux. Cette salle souterraine était beaucoup plus vaste que toutes celles qu'on avait pu voir jusqu'à maintenant. Et comment pouvait-on être dans une salle alors qu'au-dessus de nous s'étendait un ciel nocturne parsemé d'étoiles jaunâtres qui palpitaient? C'était de là que venait la lumière. « Non, ce n'est pas possible !» me dis-je. Puis je m'aperçus que si. N'avais-je pas précédemment émergé dans un autre monde, après avoir descendu d'autres marches? J'étais arrivé dans le monde d'Empis. J'en découvrais un troisième. Un escalier, un de plus, tournait autour d'un puits colossal qui avait été creusé dans la roche. Léa le descendait déjà, ventre à terre. Tout au fond, 150 mètres plus bas, ou plus, j'apercevais le palanquin de Flykiller. Les rideaux tissés de fil d'or étaient tirés. Les quatre hommes qui l'avaient porté s'étaient recroquevillés contre la paroi incurvée et ils levaient les yeux vers ces étoiles inconnues. Ce devaient être des hommes forts pour avoir porté Flykiller jusqu'ici, et courageux, mais de là d'où je les observais, avec radar, ils paraissaient minuscules et terrorisés. Au centre du sol de pierre se dressait une grue d'au moins 100 mètres de haut. Pas très différente de celle que j'avais pu voir sur des chantiers de construction dans ma ville natale, mais celle-ci semblait avoir été construite en bois, et elle évoquait étrangement une potence. La grue et sa flèche formaient un angle droit parfait. Le crochet de levage n'était pas attaché au couvercle de puits que je me représentais en imaginant le puits obscur, mais à une gigantesque trappe à charnières où palpitait une lumière verte répugnante. À côté, vêtue de sa robe caftan violette, la couronne d'or des Galiens posée de travers de manière grotesque sur ses cheveux blancs hirsutes, se tenait Flykiller.
« Léa !»
hurlai-je.
« Attendez !»
Elle semblait ne pas m'avoir entendu, à croire qu'elle était aussi sourde que Claudia. Arrivée au pied de cette dernière volée de marches arrondies, elle courut sous la lumière diffuse et cauchemardesque de ces étoiles d'un autre univers. Je m'élançai à sa poursuite en dégainant le revolver de Monsieur Bodich. 7. Les hommes qui avaient transporté le palanquin gravirent les premières marches de l'escalier pour venir à sa rencontre. Les pieds écartés, dans une posture de combat, Léa sortit l'épée de son fourreau. Radar poussait des aboiements hystériques, terrorisé par cet endroit d'où on ne ressortirait jamais, j'en étais convaincu, ou parce qu'elle comprenait que ces hommes menaçaient Léa, les deux peut-être. Flykiller leva les yeux et sa couronne dégringola sur le sol. Il la ramassa, mais ce qui sortit de sous la robe violette ne ressemblait pas à un bras. Je n'eus pas le loisir de voir ce que c'était, ou bien je ne le voulais pas, et sur le coup je m'en fichais. Il fallait que je rejoigne Léa si je le pouvais, mais j'avais déjà calculé que je n'arriverais pas à temps pour la sauver des griffes des sbires de Flykiller. Ils étaient trop près d'elle, et trop loin du revolver. Et surtout, elle se trouvait dans ma ligne de mire. Elle plaqua la poignée de l'épée contre son ventre. Celui qui était le chef, sans doute, cria quelque chose. Il agitait les bras en gravissant les marches, suivi des trois autres. Je saisis « Non, non !» mais pas le reste. Léa n'eut pas besoin de porter une attaque, car pris de panique, l'homme se jeta de lui-même sur l'épée sans ralentir. La lame s'enfonça jusqu'à la garde et ressortit de l'autre côté dans une gerbe de sang. Il bascula vers le vide. Léa tira sur son épée pour la récupérer, mais elle resta coincée. Le choix était simple, lâcher prise et vivre, ou bien accompagner l'homme dans sa chute. Elle lâcha l'épée. L'homme embroché fit un plongeon d'une trentaine de mètres au moins et s'écrasa non loin du palanquin qu'il avait porté avec ses camarades. On lui avait peut-être promis de l'or, ou des femmes, ou une propriété à la campagne, ou même tout ça à la fois. Sa récompense avait été la mort. Les trois autres s'avancèrent. Je me précipitais, sans penser au risque bien réel de trébucher, sur ma chienne peut-être, et de faire une chute mortelle. Malgré cela, je vis que je n'arriverais pas à temps, là encore. Ils atteindraient Léa avant moi, et elle n'avait plus que son poignard pour se défendre. Elle le dégaina et s'adossa au mur, bien décidée à se battre jusqu'à la mort. Ce ne fut pas nécessaire. L'homme qu'elle avait tué n'avait sans doute pas eu l'intention de l'attaquer, lui non plus. « Non, non !» avait-il crié juste avant d'être empalé. Ces types avaient leur dose. Tout ce qu'ils voulaient, c'était foutre le camp d'ici. Ils dépassèrent Léa en courant sans même lui jeter un regard. Leur cria Eldon.
Revenez, bande de lâches, votre roi vous l'ordonne.
Ils l'ignorèrent. Ils continuèrent à gravir les marches de pierre, deux par deux ou trois par trois. Je saisis Radar par son collier pour la plaquer contre moi. Les deux premiers porteurs passèrent devant nous, mais le troisième trébucha contre ma chienne, qui commençait à en avoir marre. Elle projeta sa gueule vers l'avant et planta ses crocs dans la cuisse du fuyard. Celui-ci battit furieusement des bras pour essayer de rétablir son équilibre, mais il bascula dans le vide malgré tout. Son cri aigu, de plus en plus lointain, s'arrêta net quand il heurta le sol. Je repris ma descente. Léa n'avait pas bougé. Elle observait le personnage grotesque dans son ample robe violette mouvante, tentant de distinguer ses traits à la faible lumière des étoiles disséminées dans cet abîme démentiel au-dessus de nos têtes. J'allais l'atteindre lorsque la lumière s'intensifia. Mais elle ne provenait pas des étoiles. Le bourdonnement reprit, plus grave. Ce n'était plus... mais... Le son produit par quelques créatures extraterrestres, colossales et inconnues, qui hument un plat qu'elle devine délicieux. Je levai la tête. Léa leva la tête. Radar leva la tête. Ce qu'on vit alors émerger de ce ciel obscur parsemé d'étoiles était effroyable et d'autant plus terrible que c'était beau. Si ma notion du temps n'était pas totalement flinguée, il faisait encore jour quelque part au-dessus de nous. Bella et Arabella devaient se trouver à l'autre extrémité du monde dont Empis faisait partie, mais ici, ces deux lunes était identique. Elle jaillissait d'un vide noir qui n'avait aucune raison d'exister et inondait cet enfer de leur lumière blafarde et mystérieuse. La plus grosse se rapprochait de la plus petite et on voyait qu'elle ne passerait ni devant ni derrière. Après des milliers d'années, seuls les grands dieux auraient pu les compter, les deux lunes, celle-ci et les vraies, quelque part derrière la courbure de la planète, allait entrer en collision. Elles se percutèrent dans un crash silencieux. Il s'agissait bien d'une projection, donc, accompagnée d'un éclair aveuglant. Des morceaux furent projetés dans toutes les directions, emplissant ce ciel obscur d'un miroitement comme des débris de vaisselle lumineux. Le braiement monotone s'amplifia encore, jusqu'à devenir assourdissant. La flèche de la grue commença à se lever, réduisant l'angle du triangle entre elle et la tour. Il n'y eut aucun bruit de machinerie, mais de toute façon, je ne l'aurais pas entendu. La lumière violente des deux lunes en pleine désintégration masqua les étoiles et inonda le sol de son éclat. La trappe, au-dessus du puits obscur, se souleva, tirée par le crochet de levage. La créature grotesque en robe violette regardait vers le ciel, elle aussi. Et quand Léa baissa les yeux, leurs regards se croisèrent. Les yeux de Flight Killer s'enfonçaient dans leurs orbites verdâtres. Ceux de Léa était immense et bleu. En dépit de toutes les années écoulées, de tous les changements, elle le reconnut. Sa consternation et son effroi étaient visibles. Je voulus la retenir, mais elle se libéra d'un mouvement convulsif qui faillit la faire basculer dans le vide. J'étais sous le choc, paralysé par ce que j'avais vu. La collusion de deux lunes dans un ciel qui n'avait pas le droit d'exister. Les débris se répandaient et commençaient à s'éteindre. Un croissant d'obscurité apparut autour de la trappe du puits obscur et s'élargit rapidement pour devenir un grand sourire noir. Ce long râle de satisfaction éraillée enfla. Flight Killer tituba vers le puits. Sa robe violette se souleva dans plusieurs directions. L'espace d'un instant, cette horrible tête flasque demeura cachée, puis la robe tomba d'un côté sur le sol de pierre. L'homme qui se trouvait dessous n'était qu'une moitié d'homme, comme Elsa n'avait été qu'une moitié de femme. Ses jambes avaient été remplacées par un nœud de tentacules qui le propulsait à toute vitesse, dans un dandinement de droite à gauche. D'autres saillaient de son ventre qui pendait tel un sac et se tendaient vers la trappe qui continuait à se soulever, évoquant des érections obscènes. Ses bras étaient des horreurs semblables à des serpents qui ondulaient autour de son visage comme des algues agitées par un courant puissant. Et je compris que, quelle que soit cette chose dans le puits, ce n'était pas Xulu. Eldon était le Xulu de ce monde aussi sûrement que Dora était la vieille femme qui vivait dans une chaussure et Léa la gardeuse d'oie. Il avait troqué ses pieds difformes et son dos bossu, syphose, contre quelque chose de bien plus repoussant. Estimait-il que c'était un échange équitable? La vengeance et la lente destruction de son royaume avaient-elles suffi à équilibrer les plateaux de la balance? Léa atteignit le bas de l'escalier. Tout là-haut, les fragments de Bella et d'Arabella continuaient à se répandre.
« Léa !» criai-je. « Léa, pour l'amour du ciel, arrêtez-vous !»
Après avoir dépassé le palanquin dont les rideaux pendaient mollement, elle s'arrêta, mais pas parce que je l'avais appelée. Je n'étais même pas sûr qu'elle m'ait entendu. Toute son attention était fixée sur cette créature flasque qui avait été son frère. Il s'était penché avidement au-dessus de la trappe et la chair molle de son visage pendait comme de la pâte à pain. Sa couronne tomba de nouveau. D'autres tentacules noirs émergèrent de son cou, de son dos et d'entre ses fesses. Il se transformait sous mes yeux en Xulu, maître des dieux anciens, un conte de fées terrifiant devenu réalité. Mais le véritable monstre était en dessous, et il allait bientôt apparaître. Gog Magog.